journal présenté par Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi, ce regain de violence au Proche-Orient. Trois Palestiniens ont été tués hier lors de manifestations à Jérusalem-Est. Trois Israéliens ont été assassinés dans la soirée dans une colonie située près de Ramallah. Dans l'actualité également, le grand chamboulement à la Maison-Blanche. Donald Trump remanie son service de communication. À suivre, le retour à la lumière de François Hollande. L'ancien président a mis à profit un déplacement hier à Arles pour vanter son bilan. De l'hôpital à l'hôtel, il n'y a qu'un pas. Un pas qu'une expérimentation du ministère de la Santé permet actuellement de franchir. Et puis pour refermer ce journal, un hommage au comédien Claude Rich, décédé jeudi à l'âge de 88 ans. Sans oublier votre rendez-vous sportif hebdomadaire présenté par Laetitia Bernard, avec au sommaire l'avant-dernière étape du Tour de France cycliste et du football, avec notamment le deuxième match des Français ce soir, opposé à l'Autriche en vue des quarts de finale de l'Euro 2017. Après 2 ans de quasi-accalmie, voilà que la violence fait son retour au Proche-Orient. 3 Palestiniens sont morts et des centaines d'autres ont été blessés hier lors d'affrontements avec la police à l'occasion des prières à Jérusalem-Est. Les manifestants palestiniens entendaient protester contre la mise en place de portiques de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées, portiques installées après la mort de 2 policiers israéliens abattus dimanche dernier. En signe de représailles, ce sont 3 civils israéliens, cette fois-ci, qui ont été tués au cours de la soirée lors d'une attaque au couteau dans une colonie de Cisjordanie. Dans la soirée également, Mahmoud Abbas a annoncé le gel des contacts avec Israël. Un geste pour le moins inhabituel de la part du président de l'autorité palestinienne. Jérusalem, Étienne Monin.
Et cette déclaration est un engagement de Mahmoud Abbas après une période d'une semaine pendant laquelle l'autorité palestinienne a semblé vouloir faire baisser la tension sans véritablement s'engager. La portée du gel des relations reste à définir. Précisément, le véritable domaine qui peut handicaper les Israéliens est celui de la coordination sécuritaire. Elle permet aux 2 camps d'agir efficacement contre le Hamas en Cisjordanie. Le président de l'autorité palestinienne fait du démontage des portiques de sécurité une condition pour le retour à la normale. Il prend position ouvertement du côté des autorités religieuses et de la population qui s'est mobilisée hier dans les affrontements. Il prend en quelque sorte une assurance vie interne dans une période où sa légitimité est fortement contestée, alors que les Israéliens ont confirmé avant-hier qu'ils comptaient maintenir leur dispositif et que la tension ne cesse de monter. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Et c'est loin d'être fini. Le Fatah a appelé pour aujourd'hui à une grève générale, alors que de nouvelles manifestations pourraient être organisées à la mi-journée.
États-Unis, Donald Trump remet de l'ordre dans son équipe de communication.
Et oui, tout a commencé hier par la nomination d'un nouveau directeur de la communication de la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci, un financier flamboyant de 53 ans. Du coup, le porte-parole du président américain, le visage et la voix de la Maison-Blanche, Sean Spicer, sur la sellette depuis plusieurs semaines, a décidé donc de démissionner. Son remplacement a immédiatement été assuré, mais cette nouvelle crise est une fois de plus révélatrice de la fragilité de l'administration Trump. En ligne de New York, Daniel Hoffman.
J'espère que Sean va gagner un paquet d'argent maintenant. Pour sa première conférence de presse à la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci a donné le ton. C'est ce financier de Wall Street, ami personnel de Donald Trump, qui a remplacé Sean Spicer, démissionnaire. Spicer qui était également porte-parole du président américain et qui aura donc tenu 6 mois avant de jeter l'éponge. Visiblement excédé par la nomination de Scaramucci, qu'il juge incompétent à ce poste. On retiendra surtout du passage de Spicer à la Maison-Blanche ses face-à-face avec les journalistes de CNN ou du New York Times, qu'il a souvent accusé de propager des fake news. L'exemple le plus célèbre restant sans doute celui du nombre de participants à l'investiture de Trump. Le porte-parole avait affirmé contre toute vraisemblance que la foule était la plus nombreuse de l'histoire. Autre conséquence de la démission de Spencer, Sarah Huckabee Sanders le remplace au porte-parole. Elle qui était jusqu'à présent sa numéro 2 depuis plusieurs semaines. Elle avait d'ailleurs pris une place plus importante dans l'organigramme de la Maison-Blanche puisque c'est elle qui se présentait devant les journalistes pour les conférences de presse. Un soutien qui pourrait s'avérer nécessaire alors que les liens se resserrent dans l'affaire des liens du président avec la Russie. New York, Daniel Hoffman, France Inter.
À 8h04, la politique en France, discret depuis son départ de l'Elysée. François Hollande a rompu hier soir son silence.
Invité à Arles du sommet des Napoléons, un réseau d'acteurs dans le domaine de l'innovation, l'ancien président a en effet prononcé un discours sur le thème de l'engagement. L'occasion également pour François Hollande de vanter au passage auprès des journalistes son bilan à la tête de l'État.
C'est vrai que quand on est président, on veut toujours avoir un peu plus de temps. Et c'est vrai là que les résultats de notre politique apparaissent encore davantage. Est-ce que j'ai besoin d'insister sur les créations d'emplois de ces derniers mois, sur la croissance qui est repartie plus vigoureusement même que on l'avait imaginé et anticipé, sur l'investissement qui est dans un rythme tout à fait conséquent. Voilà, on pense toujours qu'avec un peu plus de temps, on aurait pu avoir encore davantage de résultats. Mais c'est bien que ce soit aussi mon successeur qui puisse en tirer pour le pays tous les avantages, à condition bien sûr de bien utiliser ces actions qui ont été engagées et lancées. Ma conception des institutions, sens que j'ai de l'éthique, tout cela me conduit à garder une réserve pendant les prochaines semaines, parce que je considère que le nouveau président doit définir sa méthode, déterminer ses orientations, se différencier forcément de son prédécesseur. C'est ensuite qu'il est possible de porter un jugement.
François Hollande, au micro d'Isabelle Dœurs. François Hollande, qui a par ailleurs philosophé sur l'impopularité liée à cette fonction de président, en espérant qu'un jour l'histoire lui rende justice. Et puis politique encore, avec la deuxième et dernière journée ce samedi à Paris du séminaire de refondation du Front National. L'objectif pour le parti de Marine Le Pen est de dresser un bilan après sa défaite à l'élection présidentielle et l'échec aux élections législatives. Les membres du bureau politique pourraient également définir un nouveau nom pour leur parti, nom sur lequel les adhérents seront appelés à se prononcer au mois de septembre.
Être hospitalisé en dormant à l'hôtel, cela pourrait être une disposition d'avenir. C'est en tout cas l'objet à l'heure actuelle déjà d'une expérimentation.
Oui, déjà pratiquée à Toulouse et dans quelques établissements parisiens, cette initiative vient de prendre une nouvelle tournure. 41 établissements hospitaliers ont en effet été retenus par le ministère de la Santé pour tester durant 3 ans ce principe de rapprochement de l'hôtel et de l'hôpital. Les précisions de Laura Lavenne.
Prenons par exemple l'hôpital Necker à Paris. Il est concerné par cette expérimentation. Désormais, il peut signer une convention avec l'hôtel le plus près, c'est-à-dire avec un établissement privé qui reçoit habituellement une clientèle de tourisme ou d'affaires. L'hôpital peut alors proposer à ses patients jusqu'à 20 chambres par jour. Étienne Grasse pilote ce dispositif pour l'assistance publique Hôpitaux de Paris.
On a des séjours qui sont très longs, souvent pour des malades chroniques, qui restent longtemps parce que les bilans à faire sont longs. Et on s'est dit qu'on pouvait leur offrir un meilleur service en leur permettant d'aller passer une partie de ce séjour dans un hôtel à proximité. Pour des patients qui ne font l'objet d'aucun soin un jour donné.
Jusqu'à présent, ces patients déboursaient une 20aine d'euros pour une nuit à l'hôpital. Ils ne payeront pas davantage pour ces chambres d'hôtel qui coûtent en moyenne 70 euros.
En pratique, le patient n'a rien d'autre à verser que ce qu'il paierait s'il restait à l'hôpital. Donc plutôt que de nous verser le forfait hospitalier, il le versera à l'hôtel et c'est l'hôpital qui paiera le coût différentiel. Et donc si on veut pouvoir faire ça plus massivement, il faut qu'on puisse aussi envisager un financement plus pérenne.
Même si pour l'instant la question n'est pas à l'ordre du jour, les hôpitaux souhaitent à terme que le dispositif soit financé par la Sécurité sociale.
Plus de 65 000 bacheliers ne savent toujours pas ce qu'ils feront à la rentrée. Inscrits sur la plateforme d'admission post-bac, ils restent sans affectation. Bien alors, ce n'est pas celle qu'ils recherchaient. Nous y reviendrons dans le journal de 9h. Un hommage pour refermer ce journal, un hommage à Claude Rich, géant du théâtre et du cinéma, décédé chez lui jeudi à l'âge de 88 ans. Le comédien laissera au fil d'une carrière de 60 ans l'image d'un visage espiègle et d'une palette de jeux particulièrement variée. Corinne Pellissier.
C'est une chose dont nous pouvons parler entre hommes. Oui, je suis l'amant de votre fille.
Quoi ? L'aristo des faubourgs, le salaud, le jeune premier, Claude Rich pouvait tout jouer, comme ici dans Oscar en 67, aux côtés de Louis de Funès. Toujours cet air espiègle et ses yeux ronds pour incarner l'une des figures les plus populaires du cinéma français. Chabrol, Lautner dans les années 60, puis René, Schoendoerfer, Tavernier. Il avait joué dans près de 80 films avec les plus grands. En 2008, un rôle de radin acariâtre pour Pascal Thomas dans Le Crime et notre affaire. Le réalisateur en garde un souvenir ému.
Je le connaissais depuis toujours. Quand j'étais journaliste, j'avais fait des portraits de lui. Quand j'ai fait de la publicité, je lui faisais faire des voix. Et on a pu enfin trouver le moyen de tourner ensemble dans un des Agatha Christie jouait le père avec une finesse extrême.
Mais ils sont tous des menteurs. Bande de vautours.
Nous sommes tous assis sur un tas d'or et personne n'a le droit d'y toucher, c'est ridicule.
Passionné d'histoire, Claude Rich aura connu au théâtre comme au cinéma ses plus grands succès dans la peau de grands personnages comme Mazarin ou Talleyrand. C'était en 1993 dans Le souper d'Edouard Molinaro, un rôle qui lui valut un César.
Si vous le permettez, ce n'est pas de cette façon qu'on doit boire le cognac.
Emmanuel Macron qui a rendu hommage dans la soirée à Claude Rich par la publication d'un communiqué dans lequel le chef de l'État salue l'intériorité bienveillante du comédien mais aussi sa présence chaleureuse et attachante. Il est 8h09 et c'est à vous Hélène Philippe.
Merci beaucoup Serge Martin.